BW. Vue d'Allemagne.
Les sondages le prédisaient depuis des mois, le vote l'a confirmé. Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne a remporté les élections régionales en Thuringe et est arrivé deuxième en Saxe. On décrypte ce résultat dans un instant avec Stefan Seidendorf de l'Institut franco-allemand. En deuxième partie, on vous emmène au Mexique qui fait face à des épisodes de sécheresse de plus en plus graves avec des conséquences sur l'approvisionnement en eau. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro. Willkommen et bienvenue. Une césure profonde, un séisme politique. Les commentaires dans la presse allemande et internationale reflètent la gravité du moment. Dans l'est de l'Allemagne, un parti d'extrême droite a obtenu pour la première fois la majorité des voix à des élections régionales. En Saxe, l'AfD a obtenu 30,6% en deuxième position derrière le parti conservateur CDU. Mais en Thuringe, le parti anti-immigration mené par Björn Höcke est largement en tête avec 32,8% des suffrages et il revendique la direction de la région. Alors comment expliquer le succès de l'AfD, mais aussi celui d'un nouveau venu dans le paysage politique allemand, le Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, situé à l'autre extrême. Pour en parler, nous recevons Stefan Seidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand. Bonjour.
Bonjour.
Alors comment avez-vous accueilli le résultat de ces élections en Thuringe et en Saxe ?
C'est un peu ce qui était attendu. Les sondages ne se sont pas trompés. De la loi noire sur blanc, évidemment, mais dans sa dimension historique, on peut dire, c'est quand même quelque chose qui nous occupe, nous, politologues, et qui fait réfléchir. C'est la première fois depuis 1945 qu'un parti d'extrême droite gagne des élections régionales ou nationales en Allemagne. C'est vraiment une nouveauté, et puis évidemment, ça tombe dans une situation européenne, on peut dire, avec ces multiples crises et avec cette transformation du système politique comme on l'a connu depuis l'après-guerre.
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès de l'AfD dans la partie Est, donc de l'Allemagne ? L'AfD qui a mobilisé aussi beaucoup de non-électeurs, est-ce que ce sont les idées d'extrême droite, le succès de ces idées ? Est-ce que c'est un vote de protestation ? Est-ce que ça s'inscrit dans un contexte géopolitique plus global ?
Tout ça, ça compte un peu. Si j'avais la réponse précise, on ne serait peut-être pas au téléphone, vous et moi. Ce n'est pas uniquement un phénomène de l'Allemagne de l'Est, mais surtout. Et on peut y retrouver quelques traits qu'on voit aussi dans le vote protestataire ou pas en France. Cette prédilection, ce choix pour un modèle politique, un État plus autoritaire. Et ça vaut autant pour les électeurs qui ont voté pour l'extrême droite que pour ce nouveau parti d'extrême gauche, le Bündnis Sarah Wagenknecht, qui défend aussi cette idée d'un État fort, avec peut-être un homme fort ou une femme forte à la tête. Et cette idée de pouvoir apporter des solutions faciles, de décider, d'imposer des décisions, et tout sera réglé. Évidemment, la réalité est plus complexe. Ça a beaucoup fonctionné dans des régions qui sont caractérisées par un déclin démographique. Il sort petit à petit, on n'a pas encore toutes les données, que c'est notamment ce déclin démographique, donc il y a surtout des personnes âgées qui restent, surtout aussi des hommes, les femmes sont parties, les plus jeunes, les mieux qualifiés sont partis, et c'est dans ces circonscriptions-là que le succès de l'extrême droite, notamment, a été particulièrement fort.
Vous avez évoqué le parti BSW, le Bündnis Sarah Wagenknecht, fondé par cette ancienne figure du parti de gauche Die Linke. Elle a réussi à atteindre presque 12% en Saxe, 16% en Thuringe. Ce parti, il est tout nouveau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et du poids qu'il risque ou qu'il prend déjà sur l'échiquier politique allemand ?
Alors, c'est un mouvement issu de l'extrême gauche post-communiste, qui avait réussi en Allemagne, si on peut se souvenir, d'abord de survivre à la chute du mur, et ensuite de se reformer et de s'élargir à toute l'Allemagne sous le nom de Die Linke, qui avait inspiré plus tard Jean-Luc Mélenchon avec la LFI. Donc on voit un peu les proximités. Et donc dans ce mouvement un peu de gauche populiste et populaire, est parti un mouvement plus orthodoxe, Sarah Wagenknecht, elle se réclame toujours comme marxiste dans le sens traditionnel, et en même temps plus autoritaire, donc un mouvement qui prend position au sein de la gauche contre la dimension libertaire, libérale-libertaire. Donc ça peut concerner les luttes contre les discriminations, comme la protection des minorités, tous ces éléments-là. Elle rejette et elle dit qu'en fond, c'est une lutte de classe économique très classique, plus, et on ne peut pas le nier, une partie anti-immigration contre cette immigration qui est vue par beaucoup d'électeurs de la gauche extrême aussi comme un problème en Allemagne de l'Est. Et donc ce mouvement-là, il rejoint un peu l'AfD avec cette dimension autoritaire, même si évidemment Sarah Wagenknecht, elle prétend qu'elle a fondé ce mouvement pour combattre l'extrême droite.
Donc les électeurs qui ont voté pour ces deux partis, l'AfD et le Bündnis Sarah Wagenknecht, ils sont à la recherche d'une figure autoritaire, à la recherche de quelqu'un qui les guide en quelque sorte. Ça rappelle quand même des souvenirs pas si anciens en Allemagne.
Oui, c'est peut-être aussi, si on ne veut pas tout de suite aller aussi loin, puisque là, c'est vraiment difficile ensuite de voir une issue, c'est aussi ce manque de repères en quelque sorte que vous avez plutôt en Allemagne de l'Est, que vous avez plutôt dans des régions qui ont été touchées par le déclin économique, mais aussi social et démographique après la chute du mur, où on est à la recherche des solutions faciles. Et c'est surtout cet élément-là qui compte aussi, que apparemment autant le BSW que l'AfD proposent des solutions faciles aux grands problèmes, même si ça peut paraître pas à la hauteur de la difficulté de la tâche, ça appelle les gens, et évidemment il y a aussi une dimension protestataire.
Là, on parle d'un nombre d'électeurs sur les deux Länder. On est à un peu plus de 3 millions d'électeurs. Est-ce qu'on n'a pas un effet de miroir grossissant un peu ou quelle est vraiment la portée de ces élections?
Difficile à dire. Il y aura une troisième élection régionale dans le Brandenburg. Donc, on aura 3 sur les 5 Länder de l'Allemagne de l'Est qui auront voté. Et ça pourra peut-être aller dans le même sens, une poussée des extrêmes. Évidemment, si on regarde au niveau fédéral, au niveau de l'Allemagne, ça reste des petites régions avec peu d'électeurs. Mais il y a quand même cette dimension historique et il y a quand même une dynamique nationale. On voit la coalition d'Olaf Scholz au niveau fédéral qui est sous pression, qui les 3 partis ensemble qui forment la coalition nationale, le gouvernement national, ont moins de % de vote que les partis protestataires seuls. Donc il y a aussi cette dimension nationale et on ne sait pas quels seraient les résultats s'il y avait des élections fédérales anticipées bientôt. Olaf Scholz va devoir chercher des solutions, apporter des réponses aux questionnements, notamment sur l'immigration de ses électeurs et électrices en Allemagne de l'Est, même si sur le papier, il y a peu d'immigration comparée à l'Ouest, par exemple, dans ces régions, et même si c'est peut-être pas le problème principal devant un manque de professeurs à l'école, devant des déserts de santé sans médecin, devant d'autres problèmes qui sont peut-être plus importants que ce chiffre d'immigration, mais c'est ça que les gens ont en tête et qui a fait leur décision. Et donc Scholz va devoir se positionner sur cette question-là.
Stefan Zeidendorf, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était l'analyse de Stefan Zeidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand. Et le prochain rendez-vous électoral, c'est le 22 septembre, donc dans le Brandebourg, la région qui entoure la capitale Berlin. Le Land est gouverné par les Verts depuis 2019 dans le cadre d'une coalition avec le SPD et la CDU. Mais les sondages y donnaient récemment l'AfD en tête. Le parti de Sarah Wagenknecht pourrait aussi enregistrer un score à 2 chiffres lors de ces élections. Vue d'Allemagne, deuxième partie, le Mexique fait régulièrement face à d'importantes sécheresses, mais le phénomène s'est aggravé ces dernières années. Certaines régions sont désormais en situation de stress hydrique presque constant. Dans le centre du pays, les 30 millions d'habitants de Mexico et de sa périphérie souffrent couramment des restrictions des autorités. La peur de se retrouver un jour complètement à sec devient une réalité pour de nombreux Mexicains. Dans la région de Mexico, c'est le reportage de Julien Delacour.
On entre dans la lagune. Il y a un îlot juste au centre. Quand il y a de l'eau, c'est seulement accessible par barque, mais on est actuellement en train de marcher vers cette île.
Considérée comme une oasis de fraîcheur à une cinquantaine de kilomètres de Mexico, la lagune de Zumpango est complètement sèche depuis plus d'un an. Quelques flaques réapparaissent timidement, mais cette saison des pluies ne permet pas à ce bassin de près de 2000 hectares de récupérer de la sécheresse. Avec deux autres militants pour la conservation de Zumpango, la biologiste Araceli Rodriguez marche entre les embarcations échouées à cause de l'absence d'eau. La lagune a beau être reconnue sanctuaire de biodiversité depuis 2003, la plupart des 150 espèces d'oiseaux qui étaient recensées abandonnent peu à peu les lieux.
On ne voit pas d'oiseaux aquatiques, car là où il y avait de l'eau, il y a maintenant des pierres, de la terre et de l'herbe. C'est un lieu particulier qui aurait une grande richesse hydrique si celle-ci était bien gérée et beaucoup de biodiversité. Mais les zones humides sont asséchées pour permettre à la ville de grandir.
Si l'eau de Zumpango n'est pas destinée à l'usage domestique, c'est un des exemples les plus marquants des épisodes de sécheresse qui frappent régulièrement 70% du territoire. Mexico et ses 30 millions d'habitants, en comptant la périphérie, connaît bien cette situation.
Nous sommes trop de personnes à vivre dans cette zone géographique. Pour approvisionner en eau une telle population, la solution a été de pomper l'eau des nappes phréatiques. Nous avons bouleversé toute l'hydrologie.
La docteure Marisa Mazari est hydrologue à l'Université nationale autonome du Mexique. Selon elle, la position géographique de Mexico est importante. Située sur un ancien lac, le risque d'enfoncement dans le sol est plus important si l'eau des souterrains est intensément pompée. Et avec des besoins estimés à 63 mètres cubes par seconde, les ingénieurs doivent toujours creuser plus profond. Pour diversifier l'approvisionnement, environ 30% de l'eau de la vallée de Mexico vient de grands systèmes de barrages hydriques. Mais à cause de leur forte dépendance aux facteurs climatiques, ils ne fonctionnent actuellement qu'à 40% de leur capacité.
On est en train d'observer qu'avec le dérèglement climatique, il va y avoir des changements. Il va y avoir des périodes de sécheresse majeure et donc des restrictions importantes quant à la quantité d'eau distribuée.
En plus de ne pas être continu, l'accès à l'eau varie selon les villes et les quartiers. Les riverains proches du plus grand barrage du pays se plaignent souvent de coupures, alors que la grande partie de leur eau est acheminée vers Mexico.
Il y a ici une forte injustice sociale. Certains quartiers ont un système de distribution établi et fonctionnel, et dans d'autres, l'eau n'arrive simplement pas. Il n'y a pas de distribution.
Non, llega, no se distribuye.
En banlieue de Mexico, Ecatepec est une des municipalités les plus affectées par le manque d'eau. Pour ne pas gaspiller, Carmen Chagoya, une habitante, recycle l'eau de vaisselle pour dégraisser les autres plats. Une dizaine de seaux sont aussi placés à l'extérieur de la maison pour récupérer l'eau de pluie. Mais en plus des petits gestes, il faut surtout trouver des solutions pour remplir la citerne. Trois fois par semaine, son fils Jonathan se lève à 4 heures du matin en espérant pouvoir capter l'eau fournie par la municipalité.
Même en essayant de pomper, il n'y a pas d'eau toute la semaine. Un peu d'eau nous parvient les mercredis, jeudis et vendredis. Donc ce que je fais, s'il y a de l'eau, c'est que je connecte mon tuyau à la pompe.
Si les quelques dizaines de litres captés permettent à la famille un peu de répit pour quelques jours, l'eau de ce réseau est une inquiétante couleur jaunâtre et ne servira que pour les tâches ménagères. Ce système de débrouille est donc loin d'être suffisant, mais les autorités répondent absentes.
La solution qu'ils nous donnent, c'est d'appeler pour demander un camion-citerne qui est censé venir sous 7 jours pour apporter l'eau. On a fait plusieurs demandes, mais aucun camion n'est venu. Il n'y a pas de réelle communication de la part du gouvernement ou des institutions qui gèrent l'eau.
À Ecatepec, les coupures d'eau à répétition ont commencé vers octobre 2023 et la situation ne semble pas s'arranger. De nombreux Mexicains vivent désormais dans la crainte d'un jour zéro, un terme récurrent dans l'actualité qui désigne le moment où plus aucune goutte d'eau ne sera disponible. La nouvelle administration qui entrera en fonction en octobre devra donc composer avec ce risque permanent de stress hydrique et faire face à l'inquiétude de millions de personnes qui réclament un accès à l'eau équitable, comme le prévoit la Constitution. Julien Delacour à Mexico pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, on vous propose de réécouter un numéro en attendant de vous retrouver le 18 septembre en pleine forme, bien sûr. Tchuss!